Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il était un grand écrivain du siècle des Lumières, l'un des précurseurs du romantisme. Tellement romantique qu'il est tombé amoureux, bien avant d'avoir fait naître ce courant, de celle qui lui proposera d'être son secrétaire particulier, à défaut d'être son fiancé. Je vous raconte maintenant sur Europe 1, sans philosopher plus longtemps, Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes en 1746. Un homme encore jeune est assis à son pupitre. Les grincements de sa plume sur le papier couvrent à peine la voix d'une femme plus âgée. Les minutes puis les heures s'écoulent et le trouvent encore à son minutieux travail. Si son visage nous est inconnu, il ne le sera bientôt plus, puisqu'il n'est autre que Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe des Lumières, l'auteur des Confessions et des Rêveries. Le texte qu'il inscrit là d'une main docile n'est pourtant pas de lui. Ici, il n'est qu'une plume, un simple scribe. Il a quitté les bancs de l'école depuis longtemps déjà, mais c'est avec une application d'écolier qu'il couche sur le papier les phrases que lui dicte Louise Dupin, qui vient de l'embaucher comme son secrétaire particulier. Jean-Jacques Rousseau participe à un travail gigantesque qui a déjà usé plusieurs secrétaires avant lui. Oui, Madame Dupin a en effet entrepris l'œuvre colossale d'écrire le savoir d'un point de vue féminin. C'est une véritable encyclopédie féministe qui s'élabore ainsi sous la dictée de Louise et la plume de Rousseau. Arrivé il y a peu à Paris, Rousseau avait frappé à la porte de son salon dans lequel Louise Dupin reçoit des personnalités renommées, Montesquieu, Grimm et même Voltaire. Les plus grands esprits du siècle s'y pressent, conversent et échangent dans des discussions de haute volée. C'est l'endroit rêvé pour le jeune Rousseau qui rêve d'en être. À 31 ans, ce fils d'horloger qui vient tout juste de quitter sa Genève natale n'est encore qu'un inconnu fraîchement débarqué à la capitale pour y faire son apprentissage. Attiré par la musique, il avait bien essayé de faire reconnaître ses compositions et sa protectrice, Madame de Varins, l'avait confié à un maître de chapelle, mais l'expérience fut sans succès. Fatigué par plusieurs échecs successifs, Rousseau décide alors de tenter sa chance ici. « Madame Dupin est une femme d'esprit à qui j'ai parlé de vous. Portez-lui votre ouvrage », lui avait conseillé un ami jésuite, le père de Castel. De Louise Dupin, Rousseau sait qu'elle est réputée pour être l'une des plus belles femmes de Paris. Mais il connaît surtout la renommée de son salon et c'est donc plein d'espoir qu'il se rend rue Plâtrière dans l'hôtel qu'elle occupe avec son mari, Claude Dupin. La femme qui l'accueille n'est pas pour le décevoir. Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau, confiera-t-il plus tard. Le charme de Louise le subjugue. Le jeune homme n'y tient plus. Il se trouble, s'égare et le voilà vite épris de la grande dame. De cette rencontre, Rousseau ressort bouleversé. Il n'ose parler. Il craint d'avouer sa flamme. Ne pouvant plus se taire, il lui fait adresser une lettre enflammée dans laquelle il dévoile tout l'amour qu'il ressent pour celle qui est mariée depuis 19 ans. Mais les heures passent et le doux billet reste sans réponse. Louise en a-t-elle bien eu connaissance ? Il lui faut attendre le troisième jour pour que sa bien-aimée daigne lui adresser quelques mots sur un ton sévère qui glace le jeune homme entreprenant. Louise Dupin n'a pas apprécié ses avances et le sermonne avec mépris. Dépité, Rousseau voudrait parler, s'excuser, mais les mots ne lui viennent pas. Mais la Dupin n'est pas rancunière et elle sait même discerner chez ce jeune audacieux un certain talent et va jusqu'à lui confier la garde de son fils en attendant l'arrivée d'un précepteur. C'est un soulagement pour Rousseau qui peut continuer ses visites chez les Dupin. Mais son élève lui donne bien du tracas. Les 8 jours qu'il passe auprès de cette mauvaise tête, comme il le décrit, sont un véritable supplice. Il faut reconnaître que Jacques Armand Dupin n'est pas un garçon facile et cause déjà bien des soucis à ses parents. Rousseau consent toutefois à veiller sur lui, heureux de pouvoir obéir à Louise. Il parvient à gagner son affection et se fait engager désormais comme son secrétaire personnel. Jean-Jacques Rousseau n'a pas trouvé la gloire, mais il est au moins à l'abri du besoin. Il continue cependant ses compositions musicales et n'a pas oublié son rêve de célébrité. À moins qu'il ne fasse une carrière politique. Car au mois de juillet 1743, le duc de Montaigu, qu'il a rencontré à Paris, vient d'être nommé ambassadeur à Venise et il propose à Rousseau de l'assister dans sa charge. Et c'est le départ pour l'Italie, ses spectacles et ses fêtes. Rousseau est ébloui, mais il se donne très vite une importance qui déplaît à Montaigu et se fait congédier dès la première année. De retour à Paris, Rousseau renoue avec les Dupin et sert de nouveau de secrétaire à Louise, visiblement toujours pas rancunière. Commence alors pour Rousseau une longue période de travail. Jour après jour, et selon des instructions précises, il lit des ouvrages, prend des notes, sélectionne des passages. Quand il n'arpente pas les couloirs des bibliothèques, il est à l'hôtel des Dupin, rue de la Plâtrière, où il écrit sous la dictée. Le travail est long et fastidieux, mais Rousseau s'y adonne avec zèle, heureux de pouvoir ainsi assurer sa subsistance. En 8 ans, Rousseau ne lit pas moins de 200 livres et rédige près de 1200 feuillets de documentation préparatoire au livre de Louise. Un livre qui ne paraîtra jamais. Le secrétaire aura donc travaillé 8 années à un manuscrit qui ne connaîtra jamais le succès. Le succès, Jean-Jacques Rousseau s'apprête lui à le vivre, car en parallèle de son travail de secrétaire, il participe en 1750 à un concours, celui du prix de morale de l'Académie de Dijon, qui va bientôt lui ouvrir le chemin de la célébrité. C'est un discours tout à fait étonnant que tient Rousseau pour répondre à la question du concours qu'il découvre dans le journal alors qu'il se promène dans le bois de Vincennes en direction du fort où réside son ami Diderot, qui n'a pas encore écrit son encyclopédie qu'il vient visiter. Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs ? La question posée par le jury est un choc. Elle sonne comme une révélation qui s'abat soudain sur lui et qui le marquera toute sa vie. Et si la culture et la science, au lieu de rendre l'homme vertueux, l'avaient corrompu, se demande-t-il. Oui, Rousseau en est désormais convaincu. L'homme est bon par nature. C'est la société qui le corrompt. L'illumination de Vincennes, comme il l'appellera plus tard, fait naître un écrit totalement nouveau, en rupture avec les philosophes de son temps, qui prône la raison et la science. Il est tellement unique, ce discours, que le jury lui décerne le premier prix. C'est le début de la renommée pour Rousseau. Enfin reconnu, il décide de mettre fin à ses laborieux travaux de secrétaire. Fini les journées passées à compiler, copier, rédiger pour un autre. Désormais, c'est de sa propre plume qu'il souhaite vivre. Et le pari s'avère gagnant puisque, au-delà de ses idées, ses compositions musicales commencent à être reconnues. Louis XV assiste en personne à l'un de ses opéras. Quelques années après, en 1754, son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes remporte à nouveau la première place à l'Académie de Dijon. Publié l'année suivante, il achève de le rendre célèbre. Jean-Jacques Rousseau n'en oublie pas Louise pour autant, et dans le récit qu'il fait de sa vie, il se remémore le temps passé avec elle et en fait l'un des rares portraits qui nous soit parvenu. Publié à sa mort en 1782, ses confessions connaissent un large succès et mettent en lumière la personnalité et le travail de Louise Dupin. Elle l'avait engagé alors qu'il était totalement inconnu, mais lui aura permis qu'elle ne tombe pas dans l'oubli.